Vous avez été tourné dans Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5. Avant toute chose, je vous salue dans le Seigneur, chacun en particulier. Toujours une joie de vous retrouver, de se retrouver ensemble. Je parlais à mon frère Raymond en s'en venant sur la route tout à l'heure. J'ai commencé en 1989. À l'Assemblée Sainte-Marie, parce que quand on tourne à la rue en bas, c'est l'école qui est là, là. Fecto. Vos premières réunions, c'était là, dans une salle d'école, en 89. Donc, ça ne rajeunit personne, encore moins celui qui vous parle. Il y en a qui sont nés, à peine nés, à cette année-là. Bon, OK. Mais je vais arrêter ici. Alors, oui, comme il a été prié tout à l'heure, que le Seigneur bénisse sa parole, que ça puisse être utile pour nos vies de tous les jours à chacun d'entre nous. Alors, Éphésiens chapitre 5, on va lire les versets 1 à 7, mais je vais commencer les deux versets précédents parce que il y a vraiment un lien avec ce qui suit. Donc, précisément, Éphésiens 4, verset 31, pour commencer. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tiens, on revient au pas du Seigneur, hein? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit pas même nommé parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Que Dieu bénisse sa parole, qu'elle puisse vraiment pénétrer en nous pour continuer de transformer nos vies. Je me suis trompé sur le titre ce matin, mon frère, c'est plutôt « Marcher dans l'amour ». Mais ça rejoint quand même ce que j'avais dit. Donc, le titre de notre passage, marcher dans l'amour. Vous savez, notre marche avec Dieu comme chrétien doit graviter autour d'un élément fondamental. Puis ça revient toujours à ça. C'est l'amour. Pas l'amour qu'on entend parler un peu partout aujourd'hui de nos jours, cet amour superficiel et égoïste, mais l'amour véritable tel que décrit dans la Bible. Je le répète, notre marche avec Dieu, notre vie en tant que chrétien, doit vraiment tourner autour de cet élément-là, l'amour. Aimer Dieu et son prochain, aimer Dieu et son frère. C'est le moteur, c'est le motif pour une vie chrétienne florissante, une vie chrétienne qui va progresser, qui va se développer. Et Romains 13, versets 8 à 10, c'est pas... J'ai beaucoup de versets, mais ce n'est pas nécessaire que vous disiez tourniez. Romains 13, versets 8 à 10, je vous lis, c'est écrit, « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point ceux qu'il peut encore y avoir, se résume en cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait point mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Le contexte de ce texte ici qui est devant nous ce matin, c'est la troisième partie de discussion de l'apôtre Paul sur la conduite du croyant. Vous savez, la majorité d'entre vous ici, vous savez que les épîtres de Paul, ça commence toujours, là, les premiers chapitres, c'est de la doctrine, hein, l'enseignement. Et tout à coup, il va shifter sur les aspects pratiques de ce qu'il vient de dire. Alors, Éphésiens, c'est un exemple, entre autres. Éphésiens, les trois premiers chapitres, on a la doctrine. Et à partir du chapitre 4 d'Éphésiens, c'est de l'enseignement, de la mise en pratique de ce qu'il vient d'enseigner dans les trois premiers chapitres. Alors donc, au chapitre 4, comme je viens de dire, ici on a la troisième partie de la discussion sur la conduite du croyant, puis au chapitre 4, il y a le verbe « marcher » pour une première fois qu'il va mentionner. Au chapitre 4, c'est écrit « de marcher dans l'unité ». C'est le verbe, les deux mots ne sont pas collés ensemble, mais si vous regardez au début du chapitre 4, vous allez le trouver vous-même. Marcher d'une manière digne de la vocation, vous efforçant de conserver l'unité. Bon, c'est le premier verbe marcher qu'il mentionne. Ensuite, le deuxième, marcher dans la sainteté, c'est dans chapitre 4 toujours, mais à partir du verset 17, jusqu'à 32, vous allez le découvrir vous-même. On n'aura pas le temps d'aller voir. Et ce matin, c'est le troisième marché. On est sur la troisième marche, on peut dire. Marcher dans l'amour. Verset qu'on vient de lire ensemble. Et là, vous avez le verbe et tout de suite le mot au verset 2 du chapitre 5. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Alors, notre texte est facile. Chapitre 5, versets 1 à 7, on a deux parties. Premièrement, on a l'apôtre considère l'amour de deux façons. Dans son aspect positif d'abord, aimer les autres, versets 1 et 2. Et l'aspect négatif de l'amour, s'abstenir des pratiques mauvaises, comme on vient de lire. Donc, aimer les autres, versets 1 et 2. L'apôtre Paul dira, devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc. C'est transitoire parce que c'est pour ça qu'on a lu les versets 31 et 32 tout à l'heure, parce que dans ce verset-là, il va dire, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Voyez-vous? En ayant un esprit de compassion et de pardon envers les autres, je vais être en train d'imiter Dieu, qui est un Dieu de pardon et de compassion. On a tout un contrat devant nous, hein, comme chrétiens. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Vraiment possible. Cultiver, comment dire, donc faire disparaître les attitudes agressives envers les autres. Cultiver la bonté, la compassion, le pardon, qu'on vient de lire au verset 32. C'est facile de ressentir de la rancune pour quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est très facile. Conserver la colère, l'amertume envers un autre croyant. Mais le Seigneur nous dit d'aimer et de pardonner. Puis, c'est ça. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Aimer et pardonner. Et l'apôtre, il nous montre comment en arriver à ça. Bien, c'est dans notre verset 1, voilà, c'est en imitant, comment dire, en imitant le Seigneur. En imitant Dieu, c'est notre modèle. C'est notre modèle. Tout chrétien, on devrait tous être des imitateurs de Dieu. Premièrement, parce qu'on est ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Puis vous savez, les enfants, ils apprennent bien plus par l'observation et par l'imitation, hein, que par les paroles. Et ça me rappelle, moi, mon père est mort, j'avais 5 ans. C'est mon frère qui avait 5-6 ans plus vieux que moi. Puis pendant un certain temps, dans ma croissance, pas physique, là, mais dans mon développement intellectuel, Mon frère me disait, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Puis j'ai bien compris qu'il avait raison aussi. Et oui, parce que, ouais, il était un peu rock'n'roll dans sa vie. Alors, oui, on apprend par l'imitation, facilement, de voir de notre père ou notre frère, notre grand frère agir. On veut faire pareil. Donc, Dieu est amour. Hein? Dieu est amour, ça a été lu dans l'Évangile de l'Épître de Jean ce matin. Dieu a tant aimé le monde, on le sait tous. Puis, il y a une chose qui est merveilleuse au sujet de Dieu, au sujet du Seigneur, même Dieu lui-même. Dieu nous aime, c'est une vérité, ça, qu'on ne devrait pas oublier. Il nous aime autant qu'il aime son Fils. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça. Dans Jean 17, on n'a pas le temps d'y tourner, mais le Seigneur, dans sa prière au Père, il va dire, « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Hey, pensons-y une seconde. Donc, il est en train de déclarer que Dieu, le Père, aime son Fils et nous aime autant que son Fils. C'est de l'amour, ça. Alors qu'on ne pourra jamais se permettre de douter de l'amour de Dieu envers nous. Dieu est amour. Donc, imitez Dieu, notre Père céleste. Et d'ailleurs, dans les Évangiles, le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus dira, « Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait », etc. Beaucoup d'endroits. Marcher dans l'amour, c'est la façon d'imiter Dieu, de marcher, de vivre dans l'amour. Puis, le verset 2 nous dit bien, « Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. » Et voilà, on a l'exemple suprême de l'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, dans notre culte, on en a parlé encore une fois. Christ et son amour pour nous, puis il l'a démontré de façon concrète, très concrète. Il est écrit dans notre verset 2, l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande de bonne odeur, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On revient au sacrifice de la croix, où il s'est livré pour nous. Offrande, sacrifice de bonne odeur, c'est une expression qu'on retrouve dans le livre du Lévitique, dans les trois premiers chapitres du Lévitique, encore là, on n'a pas le temps d'aller voir. Je me rappelle quand on a fait quelques voyages en Israël, puis... Le guide était un juif pas vraiment pratiquant, mais il nous disait qu'à l'école, au primaire, c'est la Bible qu'ils étudient. C'est l'Ancien Testament, parce qu'ils ne croient pas au Nouveau Testament. Et le premier livre qu'un juif va lire, c'est le Lévitique. Nous, le premier livre, généralement, c'est l'Évangile de Jean. Le Lévitique, c'est le dernier qu'on va lire. Parce que c'est un livre difficile au départ, mais c'est d'une richesse. Incroyable. L'Ancien Testament, c'est le livre d'images du Nouveau Testament. On a tout en images, là, ce que Christ allait accomplir plus tard à la croix. Alors, c'est pour ça que dans Lévitique, les trois premiers chapitres, cette expression « sacrifice de bonne odeur », je devrais dire avant que les chapitres 1 à 5 de Lévitique illustrent différents aspects du sacrifice de la croix. Et le terme « sacrifice de bonne odeur », on les trouve juste dans les trois premiers chapitres. Ça veut dire que la mort de Christ a satisfait à la loi sainte de Dieu. Son sacrifice a été acceptable. Il a plu au Père. Ce terme « offrande de bonne odeur », comme je viens de dire, cité dans les versets 1, chapitre 1 à 3 de Lévitique. Chapitre 1, c'est l'Holocauste. C'est le sacrificateur donnait, il prenait rien, il gardait rien de l'animal. Tout était consacré à Dieu, brûlé. Et chapitre 2, c'était l'offrande de gâteau. Ça nous parle des perfections du caractère de Christ dans ce chapitre-là. Ou encore la fleur de farine. La fleur de farine, pour qu'elle devienne comme ça, il faut que ça ait été broyé, le blé ait été broyé. Et c'est ce que Christ a souffert à la croix. Montrer son caractère parfait, soumission au Père. Et chapitre 3, c'est le sacrifice d'action de grâce ou l'offrande de paix. Ça nous parle que la paix a été établie entre le pécheur et Dieu. Il y a une richesse incroyable dans le Lévitique. Donc, tout ça pour vous dire que le verset 2 de notre passage ici dans Éphésiens, que le Seigneur nous a, Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tout est, Dieu a parfaitement accepté son sacrifice. Alors, ce qui veut dire qu'en conclusion, le Seigneur Jésus s'est livré volontairement à Dieu pour nous comme un arôme agréable. Et nous, les croyants, à notre tour, c'est là qu'il est le son, parce que nous, les croyants, à notre tour, on doit marcher dans cet amour sacrificiel d'une bonne odeur à Dieu. Parce que je dis sacrificiel, parce qu'aimer les autres, là, ben, c'est pas toujours rose. Hein? Parce qu'on ne reçoit pas toujours l'appareil, puis il faut pardonner, il faut user de beaucoup de patience. L'amour, quelqu'un qui disait un peu en blague, l'amour, c'est l'ouvrage. Mais c'est vrai. Donc, on parle d'amour sacrificiel. On ne parle pas de l'amour romantique, comme on voit dans les films, des choses comme ça. C'est du pratico-pratique, l'amour. Donc, c'est... Puis cet amour, ce n'est pas seulement pour Dieu, mais pour tous nos frères et sœurs chrétiens. Et pour qu'on soit, parce que Dieu, ce qu'il désire de nous, qu'on soit justement une offrande de sacrifice de bonne odeur pour lui. Et je vous lis... dans 2 Corinthiens 2, verset 14, c'est écrit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » On a tous un programme et un défi devant nous, hein? D'être le parfum de Christ autour de nous. C'est là qu'on peut avoir un impact aussi, comme croyant, auprès des gens. Et auprès de nos frères et sœurs, d'être le parfum de Christ. Alors, retenons cela, Christ s'est offert lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On doit, à notre tour, s'offrir à Dieu, se donner à lui. Ça nous amène à Romains 1, ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors donc, voilà le programme pour nous chrétiens, voilà le défi d'être pour Dieu, que Dieu puisse humer une bonne odeur dans notre marche chrétienne, dans notre témoignage. Et ça nous amène à la deuxième partie du message, s'abstenir de pratiques mauvaises. J'ai jusqu'à quelle heure, excusez. Et quoi?
11h20.
T'es sûr? Non. T'es sûr? Non, non, je vais... C'est correct. J'ai compris ta... Oui. S'abstenir des pratiques mauvaises. Les versets 3... Je vais juste relire le verset 3. « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. » J'ai dit qu'on parle de l'amour, marcher dans l'amour ce matin. On l'a regardé là, de façon positive dans les deux premiers versets. Maintenant, c'est de façon négative. Et on va voir la contrefaçon de l'amour en même temps. Donc, on passe ici de l'amour de Dieu... Et pour Dieu et pour les autres, à l'amour déréglé de soi dans les péchés sexuels. Parce que les péchés sexuels, c'est de l'amour déréglé de notre ego, hein, de soi. Et vous allez, j'ai essayé d'être plus clair là, dans les lignes qui vont suivre. Alors, le contexte dans ce passage, la vie sociale, parce que gardons à l'esprit que l'Épître aux Éphésiens est écrit à des païens. Hein? Et non à des Juifs. Bien sûr, des Juifs qui se sont convertis. Mais c'est dans un contexte païen. À Éphèse, ce n'était pas une ville juive, là. Alors, la vie sociale et religieuse de cette époque-là, chez les non-Juifs, chez les païens, ça se déroulait autour des temples d'idoles. Il y avait des temples d'idoles dans chaque ville. Et ces temples-là, je vous assure que, ouais, on était loin du christianisme. On offrait des offrandes à des idoles. Puis ensuite, c'était suivi de débauches avec des prostituées. Appelons les choses par leur nom. C'était comme ça. Donc, ce qui veut dire que chez les païens de ce temps-là, la débauche, l'impureté, ça faisait partie des coutumes, des propos de ce temps-là. Et d'ailleurs, rappelons-nous, dans la conférence de Jérusalem, Actes chapitre 15, vous lirez pour vous-même, au verset 28-29, lorsque les apôtres donnent leur recommandation aux païens sauvés, chrétiens maintenant, de s'abstenir de la débauche et des animaux étouffés, de s'abstenir de la débauche. Parce que c'était dans leur, c'était vraiment imprégné dans leur coutume, vous savez. Alors donc, maintenant qu'il est devenu chrétien, c'est évident que la débauche et les impuretés, ces choses-là, l'apôtre Paul dit, évitez même de prononcer dans vos conversations. Il n'en est pas question. Mettez ça, oubliez ça. Des péchés, des vices, comme j'ai dit tantôt, qui découlent d'un cœur égoïste, un cœur centré sur soi-même. Donc, il n'y avait pas question de que ça fasse partie de leur conversation. Le mot « débauche » ici, ça vient du grec « pornéa », ce qui veut dire toutes sortes de péchés sexuels. Ça inclut des relations sexuelles hors mariage. Puis d'ailleurs, comme je viens de dire, c'est un genre de péché qui ne recherche pas l'engagement envers l'autre, mais satisfaction de soi. Donc, c'est un amour déréglé. Ensuite, le mot « impureté » qu'on retrouve dans le verset 3, ça se parle de fantasmes immoraux, de l'impureté morale, des images impures, des livres obscènes, sexe illicite. Et le mot cupidité, ce mot-là signifie généralement l'amour de l'argent puis désirer beaucoup d'argent, la cupidité. Mais dans le contexte ici, c'est plutôt un désir insatiable de satisfaire ses appétits sexuels. Désir illicite, encore une fois. Donc, vouloir posséder, mais dans ce domaine-là. Et l'exhortation de l'apôtre, bien, de s'en tenir loin, de ne pas même les nommer. Ce n'est pas des sujets de conversation dignes d'un chrétien. Le Seigneur, dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, verset 13, vous pourrez le lire pour vous-même encore une fois, il dit, vous observerez tout ce que je vous ai dit, vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Voyez-vous, le principe était remonté à loin, hein? Parce qu'encore là, le peuple juif qui avait passé 400 ans en Égypte au milieu des idoles, il y avait toute une séance de désintoxication qu'ils devaient faire. Puis le Seigneur leur dit, prononcez même pas le nom de vos idoles. Hein? Ça évoque des choses. C'est pareil ici. C'est pareil ici. S'en tenir loin. Ce n'est pas des sujets de conversation dignes des chrétiens. Et il dit, vous formez un peuple saint, hein, au verset 3. Maintenant, le verset 4, il dit qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc, il dit pas des vulgarités, il faut oublier ça, des propos obscènes, dégradants, des propos insensés, des paroles stupides. Quand il dit paroles, des propos insensés, ça parle justement de propos stupides, des idioties, des discours de gaucho, des fois, là, du gros n'importe quoi. C'est plus des conversations à avoir comme chrétien. Puis il y a le mot propos équivoque. Propos équivoque, c'est traduit dans d'autres Bibles par plaisanterie. Plaisanterie, ici, on ne parle pas de farce simplement, là, mais on parle de mots d'esprit, des farces à double sens, déplacées, impures. Hein, on sait où la personne veut aller avec ces genres de propos, ces genres de farces-là. Mais le Seigneur n'est pas en train de condamner l'humour ici, parce que je serais déjà mis au banc des accusés. Il n'est pas en train de condamner l'humour, sauf si ça blesse ou, bien sûr, si c'est à connotation immorale. Personnellement, j'aime bien rire et faire rire. Bon, mon nom, c'est Gay. Alors, si vous voulez que je vous dise, On n'en sort pas. Mais j'essaie, je demande au Seigneur de me donner de l'équilibre là-dedans. Hein? Parce qu'à un moment donné, on peut juste passer notre temps à dire des niaiseries. Mais là, c'est franchement, je crois qu'on devrait comprendre qu'on est, on n'est plus là, là. Donc, le Seigneur ne condamne pas ici l'humour du moment que ça reste pur et sain. Alors, l'apôtre va dire ce qu'on devrait entendre en tant que chrétien, c'est plutôt des actions de grâce. Et on a tous toutes les raisons d'avoir des paroles de remerciement, de reconnaissance, d'action de grâce, parce qu'on devrait avoir le cœur rempli de gratitude envers Dieu. Et ça devrait pas juste être le dimanche matin, mais chaque jour de nos vies, quand on repense, qu'on pense encore à ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il représente pour nous, plein de reconnaissance. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens, hein, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. » Si je me réjouis dans le Seigneur, il y aura un sentiment de reconnaissance dans mon cœur. Se réjouir dans le Seigneur, c'est à penser à tout ce qu'il représente, ce qu'il est et ce qu'il a fait. Donc, se réjouir en lui, chanter sa gloire, s'édifier entre nous, ça devrait faire partie de notre activité quand on se rencontre, quand on parle ensemble, plutôt que du chiolage, de la critique et des plaintes. Hein? Québécois, c'est sûr qu'on a un sport national, on est pas mal chioleux et critiqueux. Donc, ça devrait être banni pas mal dans nos conversations, ça. Je sais qu'on aura 50 raisons de se plaindre quand on regarde tout ce qui se passe. De l'autre côté, regardons ce que Dieu a fait pour nous. Et la société, quand même, dans laquelle on vit, est-ce qu'il nous manque quelque chose dans les biens matériels? Pas grand-chose, hein? On a tout ce qu'il faut. Il y a tellement de pays, d'endroits qui sont dans la misère, qui manquent de tout, sans parler des guerres, puis des massacres qui se passent. Donc, on a toutes les raisons de se réjouir dans le Seigneur et de le remercier. Maintenant, l'apôtre termine ce passage-là avec des avertissements. Le premier avertissement est au verset 5. Il dit, « Sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » L'apôtre adopte un ton vraiment sévère ici, solennel. Il avertit les croyants pourquoi ils doivent s'abstenir de l'immoralité, de l'impureté, de la cupidité, de l'idolâtrie, pourquoi ils doivent mettre ça de côté définitivement. Il dit bien que ceux qui font une pratique de ces choses, ceux qui en font un mode de vie, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas le royaume invisible de Dieu en eux. Ils ne rentreront jamais dans le royaume de Dieu visible bientôt. Alors, il faut être clair là-dessus. Ils appartiennent au royaume des ténèbres. Et je crois que j'ai écrit 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Je vous lis. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, outrageux, ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça, c'est le premier avertissement. Le deuxième, les vains discours. Le deuxième au verset 6. « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » De quelle nature étaient ces discours? De quoi il parle l'apôtre ici? Bien, probablement que d'abord c'était des supposés croyants qui disaient aux chrétiens, aux nouveaux chrétiens, « Regarde, ce n'est pas un problème pour un chrétien de vivre dans ces péchés-là. Tu es sauvé par grâce, il n'y a pas de problème. » Vous savez, c'est des genres d'influenceurs de l'époque qui disaient, Il essayait de tromper les chrétiens par ses arguments, puis souvent des chrétiens peut-être qui n'étaient pas vraiment fondés dans la foi, des chrétiens ignorants. Et il pouvait leur dire, parce qu'il y avait cette pensée qui circulait à l'époque de l'apôtre Paul, demeurions-nous dans la grâce, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? On lit ça dans Romains. Voyons, l'apôtre répond, loin de là, parce que je me rappelle des premières fois que je témoignais de l'Évangile à des inconvertis, je disais, maintenant, on est sous la grâce, puis je me faisais souvent répondre, « Oh, tu es sous la grâce, tu peux mener ta vie comme tu veux, le Seigneur te fait grâce. » Et c'est ne pas comprendre du tout c'est quoi la grâce de Dieu. Alors, voyez-vous, c'était des discours trompeurs, essayant de faire pécher des chrétiens par des arguments comme ça. Il y avait certainement d'autres arguments aussi. Alors donc, c'était un moyen de séduction et des discours vides de sens, des discours, vains discours. Puis il dit bien, les péchés que vous venez de tourner le dos aux péchés, c'est ces péchés-là qui font en sorte que la colère de Dieu est sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu est sur ceux qui pratiquent ces péchés-là. Donc, laissez-vous pas influencer par ces gens qui essayent de vous dire « Ah, pas de problème, garde, tu es sous la grâce, tu peux continuer comme tu faisais avant. » Non. Et le dernier avertissement, c'est au verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux. » En d'autres mots, fuyez-les comme la peste, ces gens-là, qui essaient de vous influencer à marcher dans le péché comme si rien n'était. N'ayez aucune part avec eux. Quelques leçons avant de terminer. Et la première leçon que je vous propose, c'est un peu le résumé de ce que je viens de dire ce matin dans le texte qui est devant nous. Ma vie comme chrétien, elle n'est pas régie par un code légal. Ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Ma vie comme chrétien n'est pas régie par une liste de règles, mais par une personne que j'aime et sur qui je veux conformer ma vie. Une personne dont je désire suivre l'exemple. Je le répète, ma vie comme chrétien n'est pas régie par un code légal, une liste de règles à suivre, mais par une personne que j'aime et sur qui je veux conformer ma vie, dont je désire suivre l'exemple. Et ça nous ramène au verset 2, « Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Se livrer à lui. » L'apôtre Paul dira dans Philippiens 1, 21, « Pour moi vivre, c'est Christ. » C'est lui, c'est mon modèle. Il n'y a pas d'autre. Et quand on devient chrétien, on sait très bien que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs, est déversé par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, en ayant l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous, inévitablement, nous rendons l'appareil au Seigneur. On l'aime à notre tour. Et en l'aimant, on donne des preuves qu'on l'aime, on lui obéit, tout simplement. Donc, la vie chrétienne, c'est ça. Deuxièmement, aimer Dieu, c'est lui obéir, comme je viens de dire. Et Jean 14, 21, je ne sais pas si je l'avais noté ici. Oui, c'est écrit, Jésus qui parle, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, puis aimer Dieu, oui, c'est lui obéir, donc c'est aimer les autres, c'est user de compassion, c'est ne pas entretenir de rancune envers l'autre, ne pas entretenir de l'irritation, de la colère, pas bon pour la santé de toute façon. Pardonner, oublier. Pardonner, oublier. Le Seigneur va dire, comme vous avez été pardonné, pardonnez à votre tour. Parce que pardonner va glorifier le Seigneur, va glorifier Dieu, ça va procurer un grand bien à l'âme et même à notre corps. Proverbe 3, versets 7 et 8, c'est écrit, « Ne sois point sage de tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Tiens, tiens. Pas juste notre âme à quoi ça fait du bien quand on pardonne. Et j'ai une note ici que William MacDonald a écrit dans son livre. Il a été estimé que la crainte, le chagrin, l'envie, le ressentiment, la haine, la culpabilité et autres stress émotionnels représentent plus de 60 % de nos maladies. À noter, hein? 60 % de nos maladies par la haine, l'irritation, ça peut être les inquiétudes aussi, bien sûr, ça nous gruge, hein? Le dedans, si je peux dire. C'est extrêmement malsain. Donc, aimer Dieu, c'est lui obéir. Troisièmement, marcher dans l'amour. Je vais me garder d'images impures, de propos grossiers, propos vulgaires. Je vais me tenir loin de la débauche et de l'impureté. Je vais veiller sur mon âme. Je vais choisir ce que je regarde, choisir ce que j'écoute. Ordinateur, Internet, télévision, cellulaire, le mal, le péché est au bout du doigt, hein? Au bout de nos doigts. Mais il y a de bonnes choses aussi au bout de nos doigts. Je ne suis pas en train de vous dire que si ouvrez plus la télé, regardez plus l'ordi, il y a des bonnes choses là-dessus. Mais il y a des cochonneries incroyables. Donc, s'il vous plaît. Et usons de discernement, oui, par amour pour le Seigneur. Avoir un discernement. J'avais lu une place que c'est écrit qu'un cheval, il va boire de l'eau, mais il peut détecter si l'eau est bonne à boire. Intéressant, hein? Si elle n'est pas bonne, il ne boira pas. Il y a du discernement. Et j'espère qu'on a plus de discernement qu'un cheval. Hein? Qu'on soit mieux ferré en la matière. OK. Donc, marcher dans l'amour, c'est me garder d'image impure. Et finalement, le verset 2, qu'on l'a lu plusieurs fois, « Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Est-ce que j'aspire à marcher dans l'amour en chrétien obéissant, en chrétien heureux et épanoui? Parce que ça va être le cas. Si je marche de cette façon, en chrétien obéissant, qui aime les autres, qui aime le Seigneur, qui aime les autres, je vais être heureux et épanoui comme chrétien. Je ne serai pas un chrétien bourru. Je vais. Et si je veux agir, si je veux être comme ça, eh bien, c'est de regarder à la croix. Le repas du Seigneur à chaque dimanche matin, on regarde à la croix. Mais on devrait regarder chaque jour de notre vie à la croix. Regardez à Christ qui m'a aimé, et je le répète encore, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Et que mon cœur, que notre cœur soit profondément touché et remué par l'amour de Christ en pensant à ce qu'il a souffert à la croix et les résultats qui en découlent. Et qu'on puisse suivre son exemple d'amour et de soumission. Et je termine, et je vous demande, s'il vous plaît, on va tourner ensemble dans Hébreux 12, ça va être le dernier passage. Hébreux 12, le verset 1. Quand je viens de dire de regarder à la croix, qui nous rappelle l'amour de Christ, l'amour qu'il a eu pour nous, la haine du péché, eh bien, je crois que Hébreux 12, versets 1 et 2, Nous avons la recette ici pour une vie chrétienne épanouie. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur moi-même, sur Jésus, qui suscite la foi, et l'amène à la perfection, En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, a méprisé la honte, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que ce soit vraiment notre vision des choses, qu'on désire cela, vision des choses. Le Seigneur Jésus a posé la question un jour à Pierre, au bord du lac Tibériade. Il a dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre a répondu, « Seigneur, tu sais que je t'aime. Et est-ce que nous l'aimons? » Vraiment, si c'est le cas, notre vie chrétienne sera une vie en développement et non pas en stationnement ou en reculant. Si nous l'aimons, nous allons lui obéir. Ce ne soit pas un fardeau. Le Seigneur vous bénisse. Et justement, j'aimerais, le temps passé, est-ce qu'on peut chanter ou si c'est... Oui. Le cantique, « Mon Jésus, je t'aime ». On va prier un instant et on va chanter. Seigneur, tu nous connais, chacun en particulier ici ce matin. Le fond de notre cœur, tu connais tout. Et pour ceux qui t'appartiennent, pour nous qui t'appartenons, que l'on puisse être de ceux et celles qui vraiment témoignent d'amour pour toi, que notre cœur soit rempli d'amour, d'admiration et d'adoration envers toi, qu'on soit continuellement comme des enfants emballés, émerveillés par ce que tu es et par ce que tu as fait pour nous. Comme dit ta parole, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et si on se réjouirait régulièrement en toi, nous savons très bien que nous allons t'obéir avec joie et que nous allons nous épanouir, nous développer comme enfants de Dieu et être de bons témoignages autour de ceux qui ne te connaissent pas encore. En Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions. Amen.